Maggot Brain Remix, donc Artificial Wave, c'est le sujet. Présentation de ce festival qui aura lieu le 14 juin.
Yeah.
Taxi Girl, V2 sur mes souvenirs. Alors là, c'est extrait de la compilation de Jeunes gens modernes. Pourquoi on vous passe du Taxi Girl? Parce que j'ai fini le bouquin de Mira Weiss, donc Taxi Girl 78-81, et vivement la suite. Donc on va faire un petit début post-punk, et ensuite, place aux invités. On poursuit avec les Stranglers, No More Heroes. Pourquoi les Stranglers? Parce que Jean-Jacques Burnel, le bassiste, a produit Seppuku, l'album, enfin le seul en fait, de Taxi Girl. Du manque de héros au jardin suspendu. Shapers in the
corrupt. Rip. Oh, toothpaste starts instant action like a tooth decay.
Alors, on vient d'écouter Obsolete d'Amorosis. Alors, à ma gauche, j'ai
Altaïr,
qui est le...
Je suis guitariste.
Alors, plus près du micro.
Alors, je suis le... Hop, tiens, je le mets comme ça. Je suis le guitariste et l'un des deux membres fondateurs du groupe Amorosis.
Et à ma droite, j'ai...
Tyren, je suis le chanteur.
Ah, donc, et le manager n'est pas là, alors?
C'est moi du coup. Mais en fait,
ah oui, d'accord.
On a des pseudos sur scène parce qu'on a vocation à développer des personnages. C'est-à-dire que bah, là, en fait, on est à visage découvert, on a nos tenues, je dirais, civiles de la vie de tous les jours. Mais sur scène, en fait, on a un dress code, on va avoir des masques et des noms d'emprunt qu'on utilise justement pour pouvoir créer des personnages. Ça fait partie de l'expérience qu'on veut donner à nos auditeurs, en fait, tout simplement.
Non, mais là, c'est surtout que tu as un double rôle. Ouais, par rapport au...
En plus, ouais, c'est ça. C'est toujours un petit peu ambivalent. Aujourd'hui, c'est un petit peu... on est obligé d'utiliser plusieurs casquettes parce que bah, d'un côté, il y a le côté professionnalisation du groupe qui me demande bah, d'agir en tant que manager du groupe, en tant que dirigeant de la société qu'il y a derrière. Et puis à côté, bah, il y a le musicien sur scène, là où bah, il faut adopter le nouveau rôle, le nouveau masque, et puis changer de casquette tout simplement. Et puis même bah, pour le festival qu'on organise, c'est aussi l'idée, quoi.
Alors, je vais redemander le prénom du monsieur à ma droite.
Tyren.
Ça s'écrit
T-Y-R-E-N.
Ok. Donc, c'était donc Amorosis. Comment dire ? Alors, comment le groupe s'est créé ? Alors, déjà, ça existe depuis quoi, Amorosis ?
Alors, Amorosis, ça va bientôt faire 4 ans que ça existe. À la base, en fait, nous, on est des musiciens qui expérimentions beaucoup de choses différentes au-delà du métal. Hein. Donc, c'était à la fois du lofi, tester en fait, plein de choses musicalement. Et on s'est rassemblés autour des groupes qu'on écoute aujourd'hui, des groupes très influents. On pense à Bad Omens, à Sleep Token et des groupes qui aujourd'hui ont une très forte influence sur nous, notre manière de créer de la musique. Et on a toujours eu cette petite fibre en nous qui nous a toujours poussé à vouloir en vivre, à vouloir tenter notre chance nous aussi. Et c'est sur ces bases-là que s'est créé Amorosis, en fait, tout simplement. La volonté de pouvoir aussi nous apporter notre pierre à cet édifice.
Alors moi, le morceau que je viens d'écouter, moi, ça me rappelle des groupes... alors, je ne sais pas s'il faut dire... Enfin, des groupes asiatiques, ça fait très asiatique. Enfin, moi, ça me fait penser à ce qu'il va y avoir au Vinci, là, à la fin du mois de juin. La convention, enfin, le Japan Festival, où il y a des concerts aussi de groupes. Et, il me semble qu'il y avait eu un groupe féminin il y a quelques années, je ne me souviens plus du nom, mais qui est mélangé rock et... Enfin, c'était à peu près de ce style-là. Donc, est-ce qu'il y a une influence asiatique ou ça n'a strictement rien à voir ?
Non, pas nécessairement. Après, c'est compliqué de donner des influences claires et définies pour Amorosis. Et justement, nous, c'est quelque chose avec lequel on joue. On aime bien laisser à l'auditeur, laisser la place à l'auditeur de pouvoir interpréter ce qu'il veut, de pouvoir comprendre les influences qu'il veut. Et ça a toujours été très important pour le groupe.
Parce qu'au final, si vous voulez, on a des influences d'un peu partout, mais on peut avoir des influences asiatiques, notamment sur des musiques qui sont très industrielles. Là-bas, quelque chose qui est très carré, aspect presque martial à la musique. Et donc, du coup,
à la limite, tu peux même lever.
On emprunte pas mal d'aspects, de ces aspects-là industriels dans notre musique. Mais on a également des influences de pas mal de groupes anglais, notamment Bring Me The Horizon et Sleep Token, par exemple.
On va dire le metalcore, si je me souviens de la dernière vidéo de Dealer de Metal.
Exactement, très bonne référence.
Alors, le morceau obsolète, là, ça parle de quoi ? Je suppose que vous n'avez pas fait comme John Tardy d'Obituary, balancer des sons sans rien.
Non, absolument pas.
Non, en fait, on est parti d'un postulat de base. En fait, l'idée, c'était...
Ça n'a rien à voir avec Solar. Ça n'a rien à voir avec MC Solar.
Ah, avec MC Solar. Non, on ne va pas aussi loin dans nos références. Nous, on est des jeunes.
MC Solar, j'ai compris.
On n'a pas connu MC Solar.
Malheureusement.
Non, parce qu'il y a un morceau qui s'appelle Obsolète, c'est pour ça.
Oui, c'est ça. Bon, là, j'avoue qu'on n'a pas été très, très, très originaux sur le titre de la chanson.
Et donc, du coup, en fait, on a voulu parler de l'industrialisation, de cette nouvelle vague d'industrialisation, pardon, qui a, avec tout ce qui est l'uberisation, la téléphonie, la mondialisation de l'industrie téléphonique et des communications, et ce qui se passe avec Internet actuellement, et comment beaucoup de gens peuvent se sentir largués par ces avancées extrêmement rapides maintenant, et donc du coup avoir plusieurs positions, notamment du côté de ceux qui se sentent largués, mais également du côté de ceux qui veulent aider ceux qui se sentent largués par cette industrialisation et ces nouveaux modes de penser, ces nouveaux modes d'agir et de créer tout simplement.
Ok. Alors maintenant, le festival en lui-même. Alors je pense que le festival, j'ai envie de dire, ça sert de prétexte à votre release party.
Ouais, c'est ça.
Ou alors est-ce que le festival existait est-ce que c'est la première édition ou est-ce qu'il existait avant?
C'est sa première édition. En fait, ce festival-là s'est construit, je dirais, sur un plus ou moins long terme, dans le sens où on n'a pas eu comme première idée de créer un festival avec tant d'ampleur, avec tant de groupes, tant de services proposés sur le festival. À la base, nous, pour la sortie de cet album-là, on voulait organiser nos release parties plutôt classiques, avec une première partie éventuellement, et ça s'arrêtait là. Et de fil en aiguille, en restant en contact avec le tissu local, avec des associations qui organisent des concerts, en ayant aussi des amis qui officient dans des groupes qui aujourd'hui commencent à réellement bien marcher, à réellement faire parler d'eux, on s'est dit pourquoi pas tenter l'expérience aussi de créer ce festival-là, qui a du coup pour objet de défendre toute la partie moderne du métal d'aujourd'hui, vraiment tout ce qui se fait aujourd'hui. Le metalcore, voilà, tous ces dérivés-là. Et du coup, c'est de là qu'a été créé Artificial Waves, qu'aujourd'hui, on essaye de mener à bien et pourquoi pas le reconduire.
Alors, pourquoi le 37e parallèle et pas le Bateau Ivre, par exemple, ou le Temps Machine?
Je te laisse répondre, Sylvain.
Eh bien, tout simplement parce que le Bateau Ivre nous a dit non. Et donc, on a cherché à faire plus grand, plus ambitieux que.
Moi, j'en pensais que le Temps Machine vous aurait dit non. Ça, c'est à peu près sûr.
Et en fait, notre ambition et notre ego nous a dit en fait, on va faire mieux, on va faire plus grand, on va faire plus sensationnel. Et donc, on a choisi une salle qui pouvait accueillir plus de personnes que le Bateau Ivre encore. Et donc on a pris le bon compromis qui était le 37e parallèle.
Alors, faut peut-être préciser où se trouve le 37e parallèle.
Alors, le
37e... Parce que moi, je vois le Bateau Ivre, je vois le Temps Machine, mais alors...
Alors, en fait, le 37e parallèle, c'est une très grande salle qui est située à Tournord, donc en fait, à la frontière entre Tournord et Mettray, donc qui est très bien desservie en transport en commun. En fait, c'est d'ailleurs même le terminus de la ligne
donc
2.
C'est derrière la grande surface à peu près, non?
Ouais, c'est ça. En fait, derrière toute la zone de la Petite Arche. L'avantage, c'est que du coup, c'est une zone qui est très bien desservie en transport en commun, qui est très facile, c'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin de se prendre la tête de savoir à quel arrêt on descend au terminus et on est directement au 37e parallèle. Puis ça avait aussi l'avantage d'être une salle qui est un petit peu excentrée, qui est dans un environnement un petit peu plus boisé, un petit peu plus vert, donc pour organiser un festival.
Donc moins de voisinage et moins
de
gens qui vont se plaindre.
Et puis pour pouvoir justement nous s'étaler un petit peu, je parlais de services qu'on voulait proposer sur ce festival tout à l'heure, effectivement la volonté de pouvoir à la fois avoir un débit de boisson, servir à manger sur place, accueillir des artisans pour qu'ils puissent présenter leur travail, ça nécessite qu'il y ait de la place et en fait le lieu était tout trouvé justement pour pouvoir permettre tout ça.
Alors pourquoi justement entre guillemets un plus? C'est-à-dire, vous aurez très bien pu vous dire, on va jouer, on invite les groupes et ça s'arrête là. Donc là, vous ajoutez des artisans, des commerçants. J'ai cru voir qu'il y a des tatoueurs aussi. Donc c'est quand même plus de traquage, j'ai envie de dire, non? A priori.
Bah en fait, on a eu une volonté de perdurer dans le temps et de pouvoir, pourquoi pas, refaire une deuxième édition, une troisième édition, encore et encore. Et donc dans cette idée de perdurer dans le temps, le but c'est de le faire grossir, le but c'est de pouvoir amener de nouveaux commerces, de nouvelles choses qui pourraient intéresser la faune locale et les gens locaux, et il y a eu une volonté également de faire vivre la scène locale quoi. On a invité le Borderline qui est un tattoo shop de Tours, on a invité même des petits artisans qui viennent d'autres régions. En fait, on veut faire vivre une petite scène qui est niche mais qui a volonté de s'étendre sur la scène quoi.
Donc ça c'est la première raison, et puis je pense que la deuxième raison aussi principale à ce choix là ça a été pour nous toujours de pouvoir pousser l'expérience du festivalier plus loin. En fait, ce festival là on l'a créé sur les bases de la philosophie qu'on a avec Amorosis, où avec Amorosis nous la musique qu'on propose elle est étendue par l'univers qu'on propose à côté, nos clips, le merchandising qu'on vend, etc. Et on a toujours vocation à offrir plus que simplement de la musique. Et ben là, pareil, au lieu d'offrir plus que, on a souhaité offrir plus que de la musique, plus que des groupes sur scène, Donc on vous souhaitait offrir une réelle expérience pour les spectateurs qui viennent, c'est-à-dire bah, pouvoir entre les groupes, ok, aller boire une bière, ok, pourquoi pas aller manger, mais aussi découvrir bah, le travail d'autres personnes, que ce soit une vitrine pour des gens qui pourraient justement avoir envie de montrer leur savoir-faire. Ce serait aussi de pouvoir créer de l'échange. En fait, on sait que après les années Covid, les gens ont envie de se retrouver, les gens ont envie de discuter ensemble, de pouvoir retisser des liens, échanger avec des acteurs de la scène et du tissu local. Et ça, c'était important pour nous aussi de le permettre, mais au-delà de la musique, tout simplement.
Donc après, ce qui est obsolète, maintenant, les gens, ils se vont pour de vrai.
Exactement, c'est ça.
Bah, style musical, j'ai envie de dire, et au niveau géographique, pour moi, il y a un parallèle justement avec le Ripfest. Alors pourquoi vous auriez pu éventuellement vous associer avec eux ou faire un...
Alors en fait, nous, on a été très ouverts à justement tisser du lien entre notre volonté d'organiser ce festival-là et les autres associations qui organisent déjà des événements sur Tours. À la toute base, quand on a commencé à organiser ce festival-là, on a contacté absolument toutes les associations dont on a pu avoir le contact. Donc à la fois l'association Riposte qui s'occupe du Ripfest, c'est aussi Rockstyle qui s'occupe du CID. Ça, c'est pour les grosses associations, mais aussi les plus petites qui organisent des concerts aux Canadiennes. On avait Artère Souterraine, etc. En fait, on a essayé de vraiment de pouvoir s'associer à tout le monde pour essayer d'avoir justement une force collective qui puisse proposer un nouveau festival. Alors après, ce qui a défini le fait de travailler ensemble ou non, bon déjà, il y a la ligne éditoriale, je dirais, de chaque association. On a des associations qui sont très branchées sur un style de musique qui n'est pas forcément celui que nous, on veut proposer. Donc bah, pour certaines, ça ne matchait pas à ce niveau-là. Il y en a d'autres qui sont très prises par déjà l'organisation de leur propre festival. Et c'est justement le cas du RIP et le cas du CIDFEST. Nous, on arrive un petit peu, très honnêtement, la bouche en cœur en disant qu'on va créer un nouveau festival. Les gens ne nous connaissent pas, ils ne connaissent pas Amorosis, ils ne savent pas qui on est. Et ça, on en a conscience, et on en a conscience que c'est compliqué pour eux de nous dire « Oui, on va participer avec vous, il n'y a pas de problème », alors que ça pourrait mettre en péril l'organisation de leurs propres événements. Là, on a le CIDFEST qui va arriver en septembre. C'est un sacré gros bébé aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on ne bosse pas ensemble. Mais on a vocation justement à... je dirais avoir des festivals qui sont complémentaires avec pas le même type de programmation. Là où le RIP est très inspiré par la scène hardcore, punk, hardcore, etc. Qu'on voit depuis des années. Là où le
plutôt métallisé plus... quand même.
C'est ça. Là où on a le CID qui est plus généraliste, nous on a vraiment cette vocation à faire du métal moderne, ce qui se fait le plus aujourd'hui, sans que ce soit mieux ou moins bien que les autres, simplement une proposition différente en fait.
Moi, je suis étonné quand même, si vous existez depuis 4 ans, que ce soit que maintenant, j'entends parler du groupe Amorosis. Mmh. Même si moi, je suis plus, entre guillemets, traditionnaliste. Mais voilà, je suis...
En fait, il y a eu cette volonté de professionnalisation instantanée qu'on a voulu avoir. On a voulu sortir un album le plus peaufiné possible. Et comme l'a dit Altaïr, une expérience complète, que ce soit avec notre scénographie et les artistes qu'on propose même en merchandising. On voulait proposer une expérience complète, que ce soit musicale et visuelle. Et donc en fait, il y a eu extrêmement longtemps qui a été passé sur les compositions des musiques. Depuis 2021, depuis en fait le recrutement de moi et de Datura, l'autre chanteuse. Et en fait, à partir de ce moment-là, on a commencé les compositions, on a essayé de trouver des moyens de financement pour l'album, ce qui n'a pas été facile, ça n'a pas été de tout repos, ça a été beaucoup d'ascenseurs émotionnels. Et en fait, on a eu énormément d'épreuves pendant ces trois ans où moi, j'ai passé avec le groupe.
Je te coupe, l'album il est autoproduit, vous êtes signé sur un label?
Absolument.
Autoproduit,
tout a été
A à Z.
Tout a été autoproduit par Amorosis, et ça fait aussi partie de la philosophie du groupe. Ça a été d'avoir le contrôle sur chaque élément qui allait faire partie de cette direction artistique. Donc là où évidemment les compositions, l'enregistrement, ça s'est fait par nous, également l'écriture, la réalisation des clips, ça a été fait par nous. Alors on s'est entouré d'équipes, de gens qui bossaient par exemple à l'ESCAT, à l'école de cinéma de Tours, qui sont venus bosser avec nous sur les clips. Donc on a été aidés, mais tout partait de nous, chaque élément a été contrôlé par nous, même jusqu'au merchandising, où on a travaillé en collaboration avec des artistes mais c'était toujours dans le prisme de ce que nous on produit, etc. Donc c'est aussi pour ça que ça prenait du temps, c'est que bah, pour une première expérience, on voulait qu'elle soit la plus professionnelle possible, mais on pouvait pas griller certaines étapes qui nous demandaient de gagner de nouvelles compétences, d'apprendre de nouvelles choses, etc., pour avoir un résultat qui soit à la hauteur de ce qu'on attendait, tout simplement.
Alors, j'ai demandé... Ah, il y a une salle que j'ai pas citée, c'est la salle Jean Sienna.
Oui, ici. Où est-ce qu'elle est, celle-ci?
Parce que je sais que le Rip Fest, au début, c'était aussi là-bas. Oui, c'est pour ça, en fait, je fais le tour des salles que je connais à peu près.
Il y avait Maria Callas aussi, je crois, à une époque.
Ça, c'est à la Ville aux Dames. Alors là, c'est hors de ma... J'ai envie de dire hors de ma juridiction.
Ah si, là-haut. Okay, si, c'est... Ouais. Bah, pour la... Pareil, pour la recherche de la salle, ça n'a pas été très facile parce que, en fait, on était un petit peu dans, entre gros guillemets, dans l'urgence quand on n'a pas réussi à trouver un accord avec le Bateau Vif pour pouvoir y jouer là-bas. On s'est dit, il faut trouver une salle qui puisse accueillir du métal, qui puisse tout simplement accueillir suffisamment de monde, accueillir un petit peu toutes les personnes qu'on voulait mettre sur cet événement, donc les tatoueurs, les artisans, etc. Et il se trouve que, de toutes les salles qu'on a démarchées, y compris la salle Maria Callas, qui n'était pas disponible sur la période dont on en avait besoin, y compris la salle Jean Sienna, pareil, qui n'était pas disponible parce qu'il y a, eu un changement de propriétaire, c'était compliqué pour eux. Donc c'est pour ça que du coup, on s'est rabattu sur le 37e parallèle, qui pour nous était la meilleure option, car aussi la plus accessible, même si elle est excentrée par rapport au Bateau Yves ou même aux Machines, elle est quand même la plus accessible en termes de rapport, je dirais, taille-accessibilité, quoi.
Donc, le festival a lieu le 14 juin. Les prix, c'est 15 euros en pré-vente, 18 sur place. Comment on fait pour avoir ces billets ?
Tout simplement, les billets...
À part le site, je veux dire.
Les billets, alors il y aura évidemment une vente sur place. Donc, en fait, tout festivalier qui ne sait pas, même ne serait-ce que la veille, s'il va pouvoir être disponible pour venir, pourra acheter sa place directement sur le lieu du festival. Sinon, on a également, du coup... notre boutique en ligne sur laquelle nous on vend nos places en pré-vente à 15 euros, et on a aussi essayé de justement agrandir nos espaces de vente pour pouvoir maximiser justement les chances de pouvoir trouver notre public. Donc on a aussi de disponibles nos places sur Citykets, donc une plateforme que beaucoup connaissent justement pour la vente de billets pour ce genre d'événement, et également en train de programmer toute notre billetterie sur Ticketmaster de façon très classique.
Là, on va parler des autres groupes. Donc, il y a un groupe qui s'appelle Rêve Noir. Alors, est-ce qu'on peut présenter ce groupe-là ? Moi, honnêtement, de toute la fiche, je ne connais rien.
On va présenter tout ça.
Alors, Rêve Noir, pour commencer.
Rêve Noir, qui est un groupe multiculturel, parce qu'il vient à la fois de Paris, de Lyon...
Et de Caen.
Ouais. Et de Caen. Donc c'est un groupe qui s'est formé, il me semble, suite aux premières expériences de groupe de chacun. Et ils se sont retrouvés justement sur cette scène métal moderne avec un son qui est aujourd'hui extrêmement qualitatif et d'une propreté sans nom, en fait. Quelque chose qui... un produit fini qui est un bonbon, en fait, pour les oreilles. Et donc Nicolas connaissait déjà Robin Le Neutre, qui est le guitariste du groupe.
C'est ça.
Et donc, on les voyait déjà atteindre les centaines de milliers d'écoutes sur Spotify. Et c'est là qu'on s'est dit, mais en fait, il nous les faut pour notre festival. Ils viennent de se mettre à la scène. D'ailleurs, ça fait 2 jours qu'ils ont fait leur toute première release party à la Boule Noire à Paris. Et leur deuxième date, c'est chez nous, sur Tours. Donc c'est vraiment un honneur de les avoir sur cet événement, quoi.
Puis ce qui est assez extraordinaire avec ce groupe-là, c'est que Rêve Noir, c'est une formation qui date de septembre, donc qui est vraiment très très récente. Et la percée absolument fantastique qu'ils ont sur les plateformes de streaming et sur YouTube, pour moi, elle dépasse justement l'entendement. Ils commencent déjà à se faire une belle place sur la scène métal moderne et metalcore, et c'est pour ça que pour nous c'était très important de les avoir à nos côtés pour ce premier festival là, cette première édition d'Artificial Waves, tout simplement.
Alors, j'ai oublié une question, j'aurais peut-être dû commencer par là. Vous parlez beaucoup de métal moderne.
Ouais.
Alors, pour les vieux comme moi, vous définissez ça comment ?
Pour moi, le métal moderne, alors après, c'est ma définition et ça n'engage que moi. Je sais que beaucoup de définitions sont possibles, mais à mon sens, le métal moderne, en fait, c'est déjà une production de la musique qui se rapproche peut-être des grosses productions de pop ou de pop rock qui se font aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va avoir un traitement du son qui va se rapprocher d'un son qui est honnêtement plus artificiel, mais qui est plus produit. On va aussi rajouter beaucoup d'éléments électroniques, aller chercher des sonorités différentes. Et en fait, ce qu'on note surtout pour le métal moderne, c'est qu'on a une composition qui ne se fait plus en studio, avec des musiciens qui ne vont jamais composer leurs titres ensemble en studio. Aujourd'hui, en fait, on a de la composition assistée par ordinateur, principalement. On va pouvoir aller chercher un petit peu de l'inspiration un petit peu partout. C'est pas rare aussi de voir pour le métal moderne que la composition se fasse par un voire deux membres d'un groupe et non pas le groupe complet. Et c'est ça, en fait, c'est un petit peu cet assemblage.
Je te coupe, par exemple, je sais pas moi, Steve Harris, ça m'étonnerait qu'un morceau de Maiden de la grande époque, ça soit Steve Harris plus les cinq autres. En général, c'est lui qui chapeautait tout. Donc ça, c'est pas entre guillemets... relatif au métal moderne, mais ce que je comprends en gros, c'est que vous êtes aux antipodes de ce qu'on appelle le true black metal, quoi.
C'est ça, c'est ça. La plupart du temps, justement, c'est pour ça qu'il y a un petit peu cette animosité, parce que le terme est trop fort, mais les personnes qui sont vraiment très attachées, je dirais, parce que justement à cet esprit true metal, etc., et qu'aujourd'hui on a cette proposition là, il y a souvent un petit peu un discours qui ne se comprend pas, parce que nous on va avoir une démarche où entre guillemets on fait tout sur ordinateur. Il y a un petit peu le côté artificiel de la musique, tout simplement. Il y a effectivement pas le côté vivant où on va forcément être derrière nos instruments. La plupart des batteries aujourd'hui, elles sont programmées, elles sont même plus jouées en studio, parce qu'on arrive à se rapprocher d'un son qui est plus plaisant par un ordinateur, justement. Et c'est ça qui définit pour moi le métal moderne.
C'est plus proche, je dirais, du rock progressif des années 70, d'après ce que j'entends.
Dans la
définition.
Dans l'esprit de composition, c'est ça. Et puis après, pour le son, lui-même, je ne sais pas ce que tu pourrais...
C'est un son moderne plus lissé, avec une structure qui est beaucoup plus proche de la pop, en fait, avec des structures bien plus simples. Avec une recherche toujours de ce qu'on appelle le bon son, de ce qui est le plus audible et le plus plaisant à l'oreille des masses. En fait, il y a une volonté de popifier un peu le metalcore et les mouvances de métal qui sont relativement récentes dans l'histoire du métal. Par exemple, le metalcore, ça a paru dans le début des années 2000, et quand on regarde sur des vieux groupes de métal qui faisaient du thrash, etc., c'est beaucoup plus jeune. On prend ces différents genres modernes et on en fait quelque chose qui va avoir un son qui va plaire aux gens et qui va plaire aux masses.
Forcément des limites, j'imagine.
Oui, il y a forcément des limites parce que aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que c'est un genre qui est devenu tellement populaire sur les réseaux sociaux que ça entraîne de nombreuses dérives pour des groupes qui dépassent l'entendement en termes de popularité. En fait, on a des groupes qui du jour au lendemain vont se mettre à totalement exploser sur les réseaux sociaux avec des fans complètement hystériques, etc. Et on a pas mal de musiciens, notamment l'exemple avec un groupe qui s'appelle Bad Omens, où aujourd'hui on a des musiciens qui sont totalement sortis des réseaux sociaux tellement ça devenait insupportable pour eux d'ouvrir leur téléphone et de voir qu'ils se faisaient harceler partout de personnes qui creusaient leur vie jusqu'à atteindre les limites de la vie privée, en fait. Et c'est ça aussi, c'est un petit peu le défaut du métal moderne, c'est que le métal moderne, pour moi, sans l'ère des réseaux sociaux, ça ne fonctionne pas, parce que les deux sont inculqués les deux ensemble, en fait, les deux sont imbriqués, et justement, on a ce truc un petit peu malsain, comme les réseaux sociaux en général, en fait, où dès que ça va commencer à devenir populaire, voire très populaire, on va avoir l'idéalisation des personnes, on va avoir l'idéalisation des musiciens, et on oublie qu'en fait c'est des humains qui est derrière, et on a l'impression que c'est des immenses rockstars, quoi. Donc c'est tout ce phénomène-là est amplifié avec les réseaux sociaux.
Alors, je fais une parenthèse qui n'a rien à voir avec le métal moderne, mais avec le metalcore. Mais puisque tu parles de réseaux sociaux et d'obsession de certains fans, moi, je vous conseille une série que j'ai vue sur... je crois que c'est sur Amazon Prime, qui s'appelle... The Swarm, je crois. En gros, c'est l'équivalent d'une fan de Beyoncé, mais sauf que la personne ne s'appelle pas Beyoncé, et ça vaut le déplacement. Enfin, c'est spécial. J'irai regarder le truc, mais alors je vais passer un peu de une petite pause et on va essayer d'écouter Rêve Noir quand même. Okay.
Behind us, have you a lot of poison? Will you drop me by the end?
Alors, on vient d'écouter Rêve Noir avec The Pact. Alors, je ne vais pas vous demander de quoi ça parle, puisque, a priori, vous, c'est Amorosi, ce n'est pas Rêve Noir.
Cela dit, je peux te répondre, parce que je sais.
Ah, bon, bah.
En fait, Rêve Noir, les morceaux qu'ils ont sortis récemment, en fait, à chaque fois, ça parlait des différentes étapes du deuil. Et là, The Pact, c'était le morceau bonus qui parlait de ce rapport du pacte avec le diable, justement, pour pouvoir avoir un renouveau, etc. Et c'est toute cette ambivalence-là et les souffrances qui sont générées par ce pacte. Hein. Et justement, qui découle, enfin, cette chanson découle de ce principe-là, en fait.
Donc, un album concept.
Exactement. Ouais, bah, c'est très. Ça rend bien, en fait, en musique, pour le coup, chaque chanson a son identité, quoi.
Alors il y a Aro Aura, alors ça par contre ça me dit plus quelque chose, je crois que c'est un groupe de Tours.
Ouais, ils sont d'ici, c'est ça, parce que aussi, autre point qui est très important pour notre festival, c'est de mélanger une scène qui est à la fois locale et nationale, en tout cas pour cette première édition là, on a essayé de faire parfaitement un mix entre les deux presque, où on a Yerao qui sont de Tours, on a Aurora qui sont de Tours, nous également aussi, Arkov Coven qui sont de Blois, donc juste à côté. Et puis après, du coup, on a Purjo Sanity de Nantes, on a Dustin Mind de Strasbourg et du coup Rêve Noir de Paris.
Et alors, il n'y a pas de groupes internationaux ?
Pour l'instant, non. Bah, après, qui sait, hein, sans doute.
Sur peut-être, une prochaine édition.
Peut-être un jour, pourquoi pas.
Alors, Aurora, donc on vient d'en parler. Vous avez dit qu'il y a Yerao qui est de Tours aussi. Dustin Mind.
Et bah Dustin Mind, eux, ils sont de Strasbourg. Donc, un petit peu comme ce qu'on te disait tout à l'heure, cette programmation-là, elle a été conçue, bon, à la fois parce que c'est des groupes qui nous parlent et puis aussi parce qu'on connaît des gens dans ces groupes-là et ça a été un petit peu, si tu veux, la porte d'entrée. Dustin Mind, moi, je connais leur actuelle chanteuse, du coup, qui s'appelle Jenny. Et je suis son travail sur les réseaux sociaux depuis longtemps. En fait, elle fait des covers de morceaux de metal moderne, de metalcore, etc. Et on était très fans de son travail. Et puis, quand elle a intégré Dustin Mind, bah, ça fait germer un truc en moi, dans ma tête, et puis du coup, mine de rien, on s'est dit que ce serait super de les intégrer à notre programmation. Ils ont une proposition qui est un petit peu différente, bien que cohérente avec le festival, et du coup, c'est pour ça qu'on les a invités. Et puis là, je crois qu'ils vont repasser en composition tranquillement pour sortir prochainement un album, donc ça va être chouette.
Alors, je reviens sur Amorosis, parce que là pour l'instant, on est Amorosis organisateur, mais on n'a pas parlé du groupe, enfin, au sens line-up. Donc il y a deux musiciens là, mais en tout, il y a combien de musiciens ?
Eh ben, en tout, en fait, on est cinq. Donc ici, on est deux, du coup, guitariste et chanteur.
Et il y a une chanteuse, après.
Il y a une chanteuse.
Il y a une chanteuse, exactement. Moi, je me suis occupé de la composition vocale, et puis Datura, elle s'occupe de pas mal de graphismes dans le groupe, et s'occupe de la partie chant, bien évidemment. Elle est plutôt spécialisée chant clair, et moi, plutôt chant saturé.
Donc on a également aussi du coup un bassiste qui est aussi le producteur de toutes les parties électroniques de la musique. Donc en fait, lui c'est le deuxième membre fondateur avec moi, donc c'est tous les deux qu'on a créé Amorosis il y a 4 ans. Et en fait, la plupart des compositions, toutes les parties instrumentales, on les a composées uniquement tous les deux. Donc c'est pour ça que je te parlais justement de nouveaux processus où là, nous on était en fait derrière un PC pendant 3 ans à produire des instrumentales sur lesquelles justement il y avait ce travail de voix qui venait se rajouter ensuite et qui venait du coup embellir totalement la chanson et rendre le produit fini tout simplement. Et on a également un batteur qui nous a rejoint assez récemment d'ailleurs, et puis avec lequel le feeling passe très très bien. Ça a été un point qui nous faisait un petit peu peur parce que ça faisait bien 3 ans qu'on était quatre à évoluer tous ensemble. Et intégrer quelqu'un, et qui plus est quelqu'un qui est un peu plus âgé que nous, là nous on est dans la vingtaine, lui est passé les 30 ans, on avait peur que le feeling passe pas, que ça soit pas limpide, et pourtant ça se passe très bien et on est très content qu'il ait intégré ce groupe.
Tu parlais de composition où, à la limite, vous n'aviez aucune limite puisque vous pouviez. Donc, il y a la partie jam, mais aussi l'ordinateur. Mais sur scène, comment vous faites ? Est-ce que vous vous êtes dit il faut quand même qu'on arrive à restituer, enfin, faire quelque chose qui soit le plus proche d'un morceau et non pas que, par exemple, imaginons, il faut avoir ce sample-là, il faut avoir ce truc-là ou.
Alors,
je sais pas, un morceau où vous avez trois, enfin, on peut imaginer que vous avez trois batteurs différents, enfin, l'équivalent de trois batteurs, mais sur scène, il y en a qu'un, par exemple.
Bah, en fait, par exemple, pour tout ce qui va être kick électro, etc., c'est samplé et c'est mis directement nous dans notre mixage son sur scène qui aura en fond. Globalement, c'est pareil sur certains éléments de voix qui sont en fond et que bien sûr on ne peut pas chanter sur deux voix en même temps, que ce soit moi ou Datura, c'est la même chose. Mais en fait, on se veut le plus fidèle possible aux matériaux de base qu'on avait créé pour l'album et on veut une restitution la plus fidèle possible sur scène. Donc quelque chose qui est à la fois très légèrement adapté sur certains passages, mais quelque chose le plus fidèle possible au matériel numérique et digital que peuvent consommer les consommateurs qui vont consommer du Amorosis, tout simplement.
Après, ça aussi, nous, on l'a anticipé à la composition. Il y a des choses qui, humainement, typiquement, en fait, la composition, par exemple, de la batterie, elle s'est faite uniquement sur ordinateur. Mais à chaque fois, on a veillé à ce que les compositions qui ont été faites soient réalisables sur scène, tout simplement, et que ce soit pareil pour les guitares, etc. On n'a jamais composé de choses qui ne sont pas réalisables sur scène. Mais effectivement, on a une musique qui aujourd'hui n'est pas, qu'il faut anticiper. C'est ça. On ne peut pas, nous, jammer notre musique. Ça, c'est effectivement impossible parce qu'on a besoin de composer en amont les parties électroniques de notre musique et ensuite de les diffuser sur scène.
Alors, je ne sais pas si vous... Enfin, je suppose que non. Mais... je sais qu'il y a un site américain qui s'appelle Blabbermouth où à chaque fois que je regarde, il y a toujours le côté est-ce qu'il faut utiliser des vocaux en background, donc pas naturels ou pas. Et donc certains disent oui avec parcimonie, d'autres oui, non, etc. Et il y a quand même le cas d'un groupe... un groupe californien dont le chanteur a bien grossi et je pense qu'à mon avis, ça n'a plus rien à voir avec ce que lui chante. Voilà, je parle de Mötley Crüe. Donc, est-ce que vous aussi, ce débat vous traverse ou pas du tout
En fait, pour nous...
Je suppose que non.
En fait, nous, on a vocation à être... bien que nos processus de composition soient différents, être avant tout des musiciens. Et nous, ce qui nous fait vibrer, et c'est ce qu'on s'est toujours dit, c'est de faire de la musique. Et pour nous, si on perd ce petit truc-là, justement, de faire de la musique sur scène, ça n'a plus aucun sens. Alors, effectivement, notre musique demande de prendre des dispositions qui sont particulières. Moi je suis tout seul comme guitariste sur scène par exemple, sauf qu'on a enregistré deux guitares sur l'album, donc il y en a une qui sera jouée par un ordinateur et moi qui joue l'autre, mais je garderai toujours ce truc de moi je joue mes propres parties, je joue les leads, je joue les parties les plus intéressantes, celles qui intéressent le public. C'est pareil pour les voix, les voix sont toutes chantées, elles sont jamais en background, parce que pour nous comment faire ressentir une émotion au public en live s'il n'y a pas la petite patte du live, la petite touche supplémentaire, les petites variations différentes, et puis même voir les petites erreurs qui rendent le truc vraiment complètement vivant, quoi, tout simplement.
Ouais, organique.
Non, mais c'est pas ça ce que je dis. Ce que je dis, c'est est-ce que, je suppose que vous, ça ne vous dérange pas d'avoir une voix supplémentaire en background, puisque c'est oui. Ça va dans votre sens. Vous n'êtes pas Iron Maiden, vous n'êtes pas un groupe de true black metal qui va dire moi je veux ça et ça et ça. Mm-hmm. Donc c'est plus, je pense que c'est ça, comment dire, ça vous pose moins de questions
oui. Non, là, oui.
Que, je sais pas moi, Maiden ou.
En fait,
je vais pas dire Metallica parce que là je mets ça à part, mais voilà.
Nous, ma vocation est à toujours servir notre musique. Si effectivement sur scène rajouter des voix en background en plus de la voix qui sera chantée sur scène, ça a un intérêt pour la musique, ça a un intérêt pour l'émotion et ce qu'on veut dire à notre public. Là, effectivement, nous n'aurons pas de mal à le faire transparaître, tout simplement.
Im Automobil immer in Richtung Ewigkeit und immer mit dem einen Ziel. Ich rede mit mir selbst.
À ce moment-là, l'ordinateur nous a lâchés, donc on va vous remettre la seconde partie de l'interview d'Amorosis. Bin mein Radio. Und besonders du. Und ich rede mit mir selbst. Ich rede mit mir selbst. Ich rede mit mir selbst.
sun it fed by. Twisting your guts to get your poison at the right time. This little devil inside, you know it. Come on, come on, just one more hit. Son of God, that's hard to fight for. Roots in your lungs and sap in your blood. Before the rain grass got closer. Are you a friend of me? Are you afraid of me? I'm
as flowers. They're the new world and the fleeting one.
Le but n'est pas de parler de ska, ni de parler de vieux groupes de New Wave British Heavy Metal, mais de parler d'Amorosis et de Artificial Waves. Alors, on va rappeler que c'est le 14 juin, que c'est au 37e parallèle, c'est 15 euros en location, 18 sur place, qu'on peut trouver ça sur le site d'Amorosis pour les places, qu'il n'y aura pas que de la musique.
C'est ça, ouais, il n'y aura pas que de la musique. Des stands d'artisans, des stands d'exposants justement qui ont présenté leur travail et également un tattoo shop. On travaille avec le Borderline qui est un salon de tatouage tourangeau qui plus est. Puis vous aurez aussi de quoi vous restaurer et boire une bonne bière sur place.
Donc les groupes qu'il y a, donc à part Amorosis, c'est donc Rêve Noir, Arrow Aura, Dust in Mind, Purge of Sanity, Yerao, Arch of Coven et au niveau des youtubeurs metal, est-ce que il y a des présentateurs que vous regardez ou qui vous intéressent?
Nous, sur YouTube, on a pas mal d'influences justement d'influenceurs, que ce soit sur YouTube ou sur les autres réseaux sociaux, des gens qu'on a commencé à contacter, qu'on regarde aussi et puis qu'on aimerait bien justement faire venir. Moi, je sais que j'ai un TikToker que j'aime beaucoup qui aussi fait son contenu sur Instagram qui s'appelle Flo, qui fait de la Flo Unicorn et qui fait beaucoup de vlogs de concerts, du contenu autour des concerts justement, et que j'avais contacté pour voir si on pouvait justement le faire venir au festival, qu'il puisse en profiter, donner son avis avec une liberté d'opinion totale. Hein. C'est effectivement, nous on l'invite pour qu'il donne son avis, qu'il voit l'expérience qu'il peut en retirer et puis qu'il puisse justement en parler. Puis après, justement, on essaie de démarcher un petit peu à droite à gauche pour voir un petit peu les retours qu'on peut avoir et sur notre musique et sur l'organisation de ce festival.
Parce que moi, je pensais à... Alors, je ne sais pas si on dit Max Waimi ou Maxime, qui fait certains festivals qui étaient d'ailleurs controversés par rapport au motoculteur, d'après ce que j'ai vu. Mais je trouve qu'il a bien répondu. Il a dit, j'ai été payé pour le faire et puis je voulais faire un truc correct. Donc voilà. Il y a lui, alors Maxwell, j'ai moins vu de reportages de concerts. Et puis il y a un type du côté de Nantes qui s'appelle Enfin, je sais que la chaîne, c'est Mes Vieilleries. Je crois qu'il s'appelle Cad, le type.
Oui, ça me dit quelque chose comme ça. Mais Max Wemmy, on le connaît bien, enfin, de par ses vidéos, on ne le connaît pas personnellement. Hein. Après, là où on n'a pas risqué de lui envoyer un mail, c'est qu'on sait pertinemment que
oui, au niveau des goûts, peut-être,
la
oui.
proposition la qu'on lui ferait en termes de direction artistique du festival, ça ne lui plairait pas et on n'a pas envie de se faire taper dessus gratuitement. Quoi.
On sait qu'il peut avoir les mots tranchants.
Après, là où on sait que Max Wemmy critique des gens qui vont se prendre pour des dieux et alors que... Non, en fait, nul n'est Dieu, tout simplement, au niveau musical. Nous, on n'a pas vocation à faire de la musique qui est meilleure que les autres. On n'a pas vocation à dire que le type de musique qu'on fait, parce qu'il est plus moderne, entre guillemets, est mieux que le reste. Non, absolument pas. En fait, on a une proposition qui est différente. Ça parle pas. Les goûts et les couleurs, voilà, c'est comme d'habitude. Chacun son opinion et ses goûts, et c'est tant mieux.
Qu'est-ce qu'on peut rajouter ?
Qu'est-ce qu'on peut rajouter, Thibaut ?
Moi, en l'occurrence, je suis énormément la scène outre-Atlantique des youtubeurs américains. Je suis pas du tout familier avec la scène YouTube metal français. Voilà, je parlerai en néophyte si je me mets à discuter.
Non, moi, je pensais par rapport au festival.
Et bah, par rapport au festival, si, une chose qui peut être intéressante. Alors, jusqu'au 14 juin, on a mis en place un tirage au sort qui peut être intéressant. C'est un tirage au sort, en fait, sur toutes les places vendues en pré-vente, on va sélectionner une personne pour lui offrir un pack festival. Alors, qu'est-ce qu'on a mis dans ce pack festival ? On a déjà un t-shirt qui va être exclusif. On va en tirer qu'un seul exemplaire. Et c'est un t-shirt sur lequel on va avoir de floquets à l'avant, à l'arrière et également sur les épaulettes. Plein de designs qui ont été designés du coup par notre chanteuse Datura qui s'occupe de toute la partie graphique d'Amorosis et du festival. Et c'est un t-shirt du coup sur lequel on reprend les codes du festival, de l'affiche, on retrouve également les groupes. Donc voilà, ça c'est déjà la première chose. Également parce qu'on sait que ça fait toujours plaisir, on a deux boissons offertes au bar. Donc là-dessus, on travaille avec le VNB de Tours, toujours dans cet esprit de travailler à l'échelle locale. Donc le festivalier en l'occurrence pourra aller se faire plaisir au bar. Et également, on va offrir une affiche du concert encadrée et signée par l'ensemble des groupes qui seront présents sur place, ce qui peut faire un beau souvenir. Et puis qui sait si le festival gagne en ampleur d'ici quelques années, ça vaudra des millions, donc pourquoi pas.
Eh bien, donc merci à Morosis, parce que là, je pense qu'on va s'arrêter là pour ne pas dépasser l'heure et demie quand on l'aura condensé. Et donc, rendez-vous pour les fans de musique heavy metal ouverte, dans un sens progressif. Donc, le 14 juin au 37e parallèle, c'est à quelle heure que ça commence ?
Eh bien, ouverture des portes à 17h, tout simplement.
Voilà, donc dès 17h, et apparemment, c'est bien desservi par les transports locaux.
Eh bien, merci à toi.
Merci beaucoup.
And a trifle untrue, but I can't help it, I'm a romantic fool. It's a habit of mine to watch the sun go down on Echo Beach. I watch the sun go down. From 9 to 5 I have to spend my time at work. My job is very boring, I'm an office clerk. The thing that helps me pass the time away is knowing I'll be back at Echo Beach someday.
Et on se quitte avec la souris déglinguée. Avant, c'était Echo Beach par Martin de Muffins.